Bonjour, je vous invite à poursuivre dans la prière. Notre Père, merci. Merci effectivement parce que tu es là, chaque jour, à nos côtés. Aide-nous à être attentifs, encore et encore, à ta présence, à nous ouvrir toujours plus à toi et à être à ton écoute. Nous te prions pour les enfants, pour nous-mêmes ici, que tu puisses bénir ces temps passés ensemble, en présence des uns et des autres, et avec l'aide de ton esprit, en ta présence, pour toujours mieux être édifié et développer cette relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai une annonce à vous faire, j'en ai ras le bol, je démissionne. Voilà, je fais mes cartons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'en ai parlé avec quelques-uns il n'y a pas longtemps, nous assistons à des vagues de démissions. Démissions chez les travailleurs, quel que soit le métier, ouvrier, cadre, ingénieur, professeur, médecin ou même pasteur. Démissions chez les bénévoles d'associations et également démissions dans les églises. Alors quand je parle de démissions, j'inclus aussi les ruptures conventionnelles dans le milieu professionnel qui sont aussi des manières de démissionner plus avantageuses, on va dire, pour l'employé. Aujourd'hui, le souci des employeurs, c'est de trouver des employés qui restent à leur poste. Cette culture de la démission dans notre société pose question. Est-ce un problème générationnel ? Je pose juste la question. On accuse souvent les jeunes d'être paresseux et de ne pas être travailleurs, comme l'ont été leurs ancêtres. On se plaint que les médecins de famille d'aujourd'hui n'acceptent plus d'être appelés à 22h pour venir à la maison examiner l'enfant malade. On se plaint d'ailleurs qu'il n'y ait plus assez de travailleurs, plus d'artisans, plus de chauffeurs, etc. Quelles sont les raisons de ces démissions? Voici quelques causes que j'ai pu trouver sur Internet, et souvent ce sont les mêmes. Alors voici un classement dans l'ordre de priorité, pourquoi est-ce que les gens démissionnent. Il y a 10 raisons principales. Manque d'épanouissement personnel, relations difficiles au travail, opportunités professionnelles meilleures ailleurs, problèmes liés à la rémunération et aux avantages, manque de reconnaissance et ou de valorisation, conditions de travail insatisfaisantes, manque d'équilibre en septième, manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, absence de perspective d'évolution, changement organisationnel difficile à accepter et conflit avec la direction ou les collègues. Voici en vrac, en tout cas dans l'ordre de priorité, aussi quelques raisons qui sont évoquées par les gens qui démissionnent. Alors aujourd'hui, le sujet de ma prédication n'est pas de juger de la pertinence de ces raisons, ni de critiquer les jeunes générations. D'ailleurs, je pense que nous généralisons un peu trop et un peu vite. Il y a énormément de jeunes qui travaillent dur dans des conditions difficiles. Parler des jeunes de manière négative ou en généralisant, cela peut être offensant envers ceux qui travaillent, par exemple, 60 heures par semaine, jusque tard le soir, et même le week-end, ainsi que les jours fériés. De plus, les démissions sont rencontrées chez toutes les générations, et pas seulement chez les plus jeunes. Ce que je voulais relever en parlant de la démission, c'est que le risque existe dans nos églises. Dans les raisons qui sont évoquées chez les personnes qui démissionnent, j'ai été interpellé par plusieurs raisons qui sont évoquées et ce sont des raisons relationnel. Les difficultés relationnelles sont une des principales causes de démission, que ce soit dans le monde du travail, dans le milieu associatif ou dans les églises. Depuis que l'être humain s'est privé de la communion avec Dieu, depuis Adam et Ève, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, les relations sont une source de complications. Et on le voit dès le début lorsque Adam accuse celle que Dieu a mise à ses côtés. C'est encore plus compliqué, les relations, lorsque nous sommes différents. L'Église est le lieu par excellence où se côtoient des personnes différentes. Dans nos églises protestantes évangéliques, nous trouvons des personnes de toute origine, de tout niveau social, toute génération, tout arrière-plan religieux et toute sensibilité, et on pourrait encore continuer. Dans nos églises, j'ai entendu une fois une remarque de ce type, nous trouvons des ouvriers présidents de conseil et des chirurgiens préposés au ménage. Des enfants et des personnes âgées lisent la Bible ensemble. C'est assez rare les associations où nous trouvons une telle richesse dans la diversité. Cela dit, cette richesse implique aussi une responsabilité, celle de prendre soin des relations. Car avec tant de différences, les relations peuvent être compliquées. Avec une telle variété de personnes, les attentes sur la vie d'église peuvent être différentes. Et la manière de communiquer aussi entre nous est parfois différente aussi. La Bible nous parle évidemment de cette complexité et de la nécessité d'accorder une attention particulière à nos relations. C'est le thème du texte que nous allons lire ensemble dans quelques minutes. Avant les fêtes de fin d'année, nous avions commencé et bien entamé une série de prédications sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, je reprends cette série là où nous l'avons laissée, c'est-à-dire, alors où, même moi je m'en souvenais plus, au chapitre 3. Alors rassurez-vous, même moi je devais revoir mes notes, alors si vous avez oublié de quoi il s'agit, ou si vous étiez absent, voici un bref résumé des chapitres 1, 2 et 3. Dans le chapitre 1, l'apôtre Paul, alors c'est un bref résumé, dans le chapitre 1, l'apôtre Paul rappelle les bénédictions que Dieu leur a accordées, puis il prie pour eux, afin qu'ils puissent toujours être émerveillés par la grandeur de Dieu. Au chapitre 2, l'apôtre rappelle tout ce qui leur a été accordé par grâce, tout ce que Dieu leur a accordé par grâce, gratuitement donc. Il leur annonce également que cette grâce est offerte à tous. Juifs et non-juifs, ce qui est choquant pour l'époque, en tout cas pour les juifs de l'époque. L'unité se trouve en Christ et non pas dans une identité ethnique. C'est important pour lui de le dire, car l'église d'Éphèse est composée de juifs et de non-juifs. De même, dans ce chapitre 2, Paul énumère ce que Dieu a fait pour les Éphésiens. Grâce au Christ, ils sont devenus proches de Dieu. Ils sont réconciliés non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Car Dieu nous rassemble dans sa famille, dans une même famille. Au chapitre 3, Paul continue en annonçant que nous sommes tous co-héritiers du royaume de Dieu. C'est en lien avec Jésus que nous nous approchons de Dieu. Après ce discours, il exprime encore une prière, une deuxième prière, que nous allons lire maintenant et qui a commencé déjà à être affichée. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Lorsque j'ai lu ce passage pour le méditer et pour préparer cette prédication, j'ai trouvé que c'était une simple prière, très belle, très bien rédigée, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire dessus ? Y a-t-il un enseignement à tirer de cette prière ? Est-ce que c'est une simple prière ? C'est mon premier point. En quelques mots, l'apôtre demande à Dieu qu'il accorde aux Éphésiens d'être fortifiés, de faire preuve d'amour, de connaître toujours plus l'amour du Seigneur et d'être remplis de la plénitude de Dieu. Que dire de plus ? C'est alors que je me suis intéressé un peu plus au contexte. Et c'est là que ça devient intéressant. Étudier un texte dans son contexte est toujours bénéfique pour sa compréhension, pour notre compréhension du texte. Le contexte, c'est une église. Paul écrit à une église où des personnes très différentes se côtoient. Nous l'avons dit juste avant sa prière, Paul insiste sur le fait que des juifs et des non-juifs ont été réconciliés et même unis pour former une seule famille, la famille de Dieu. Les uns mettaient beaucoup l'accent sur les traditions, les rituels, la nécessité d'être circoncis et de respecter les interdits alimentaires. Et les autres étaient totalement étrangers à ces règles. Et lorsque l'on parlait de ça, ben, c'était étranger, ça ne leur parlait pas. Et lorsque ces deux cultures se sont réunies, et sont réunies par le Seigneur, cela peut donner lieu à des incompréhensions mutuelles et à des frictions. Le comportement des uns pouvait choquer les autres, alors que pour les autres, c'était totalement naturel. Et c'est aussi intéressant de s'intéresser à ce que Paul dit après la prière. Donc avant la prière, il dit que les personnes totalement différentes sont appelées à être unies dans la même famille. Et après la prière, quel est l'enseignement de Paul après la prière ? Il leur annonce la nécessité d'être unis pour s'édifier mutuellement dans l'Église, unis pour travailler ensemble, pour servir Dieu ensemble, chacun avec les dons que Dieu lui a donnés. Je l'ai relevé dans mon introduction, mettre des personnes très différentes ensemble et leur demander de travailler en collaboration, ça peut être compliqué. Certains pourraient être tentés d'abandonner, de démissionner ou de développer une amertume. Alors comment faire pour rester unis malgré nos différences ? Comment faire pour travailler ensemble lorsque nous n'avons pas la même culture, pas la même manière de communiquer, pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes opinions, pas les mêmes attentes ? Eh bien, nous avons, c'est une réponse qui peut paraître simpliste, mais que l'apôtre Paul applique ici, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et c'est pour cela que Paul prie. Il commence par annoncer que juifs et non-juifs sont réunis dans une même famille spirituelle et il s'apprête à les exhorter à travailler ensemble. Mais il sait que c'est impossible, humainement parlant, de travailler ensemble avec de telles différences. Alors, il prie d'abord pour eux. ils commencent par prier pour eux. Sans l'aide de Dieu, l'Église est impossible. Sans l'aide de Dieu, nos défauts humains ressortent dans nos relations. Sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas servir Dieu ensemble, paisiblement. Si je vous demande quelles sont vos attentes envers l'Église, envers le conseil, envers les uns et les autres, envers le pasteur, si je vous demande quelles sont vos attentes, nous allons avoir pratiquement autant d'attentes différentes que de personnes. Et parfois, nous pensons que les autres ont les mêmes attentes. Mais si nous les verbalisons, nous les écrivons, nous nous rendrons compte que nous sommes tous différents. Mais la question n'est pas de savoir ce que nous attendons de l'Église. La question est de savoir ce que Dieu veut et à quelle place il nous veut. Regardons alors ce que Paul demande à Dieu, afin que les Éphésiens soient capables de collaborer entre eux, de se supporter et de s'aimer. Verset 16, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Au début de l'automne, l'église de Châteaudun a organisé une journée de formation sur l'énéagramme. En gros, l'énéagramme, c'est une manière de classer les personnalités en 9 types différents. Ce n'est pas en lien avec la Bible, mais nous pouvons trouver des applications intéressantes pour notre vie spirituelle. J'ai beaucoup aimé cette formation et je pense qu'elle peut effectivement nous aider à mieux nous connaître. Mieux se connaître, c'est à deux tranchants. En se connaissant mieux, on peut s'enfermer dans une certaine perception de soi et même nous complaire dans notre fonctionnement. On peut même arriver à dire aux autres, « Il faut me prendre tel que je suis comme ça, c'est ma personnalité. » Et c'est aux autres de faire comme ça, de s'adapter à moi, parce que je suis comme ça. Et on peut même, parce qu'on est comme ça, continuer de vivre comme ça. Ou alors, deuxième possibilité, en se connaissant mieux, on peut identifier nos limites et travailler dessus pour les dépasser. De plus, en tant que chrétien, un paramètre non négligeable est à prendre en compte. Malgré ce que peuvent dire certaines études au sujet de la personnalité, parce que une certaine école de pensée dit que les personnalités ne changent jamais, par exemple, eh bien, je suis convaincu que Dieu peut nous changer et même travailler notre personnalité. Relisons le verset 16. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Dans votre être intérieur. C'est mon deuxième point. La prière de Paul, elle est pour transformer notre être intérieur. Et l'être intérieur, ce n'est pas seulement la personnalité, c'est tout notre être, jusque notre identité la plus profonde. En recevant l'Esprit de Dieu, une nouvelle vie commence. Jésus dit que nous naissons de nouveau. Et si nous naissons de nouveau, avec une nouvelle vie, ce n'est pas pour naître avec la vie d'avant. Et une fois né de nouveau, l'Esprit peut fortifier notre être intérieur. Il peut tout changer. Et je le dis avec conviction, car je connais des personnes qui, grâce à l'Esprit de Dieu, ont totalement changé. Méconnaissable dans le bon sens du terme. Dieu ne travaille-t-il pas notre caractère, notre personne, notre être intérieur? Dans le contexte de la prière, Paul demande que Dieu les fortifie par son esprit pour les rendre aptes à travailler ensemble. L'objectif de la transformation de Dieu, c'est pour nous rendre aptes à travailler ensemble, à se supporter, à communiquer avec bienveillance et à prendre soin les uns des autres, aussi différents que nous sommes. Et voici ce que nous pouvons lire ensuite, des versets 17 à 19. « Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » De quoi avons-nous besoin pour servir Dieu ensemble? Je ne pense pas que la première nécessité soit d'organiser des formations en communication, des formations en diplomatie, en management ou en leadership. Alors oui, tous ces outils que j'ai mentionnés peuvent être utiles. Mais la première nécessité, comme l'apôtre Paul le dit, c'est d'être enraciné et fondé dans, toujours plus dans l'amour du Christ. L'apôtre Paul utilise deux verbes qui illustrent deux images, enraciné et fondé. Un arbre bien enraciné, c'est un arbre qui tient bon, un arbre solide, un arbre qui peut grandir et se développer car il puise ses ressources profondément dans la terre. Plus il est enraciné, plus il est capable de puiser sa nourriture et plus il peut se développer. Soyons enracinés, prions pour être enracinés dans l'amour du Christ. Un bâtiment qui a de bonnes fondations, c'est également un bâtiment solide qui résiste aux intempéries, car il est bien ancré. L'apôtre Paul prie pour que les chrétiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Il souhaite que nous soyons capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Alors si nous pensons avoir compris, si nous pensons connaître l'amour du Christ, nous nous trompons parce que cet amour dépasse, surpasse toute connaissance. Être rempli de la plénitude de Dieu, comme l'apôtre Paul le demande, c'est être aussi rempli de son esprit. En mettant notre foi en Jésus, effectivement, nous recevons tous le Saint-Esprit. Mais l'Esprit doit avoir le champ libre pour développer toute sa plénitude en nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens connaissent l'amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 19. Alors je conclus avec une question plus pratique qui m'a été posée récemment. Si je dois simplement prier, si Dieu fait tout, alors dois-je ne rien faire? L'apôtre Paul ne dit pas qu'il ne faut rien faire. Il prie pour eux et juste après cette prière, il leur demande de se supporter. Chapitre 4. Il leur parlera aussi du rôle de chacun dans l'Église. Les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens, etc. Et s'il prie, il prie avant de leur dire cela, c'est parce qu'il sait qu'ils ne pourront pas se supporter sans l'intervention de Dieu dans leur vie. Mais après la prière, il leur demande d'agir. Il prie pour eux et ensuite il les exhorte à agir. Nous aussi, prions pour que nous puissions toujours plus connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Prions et mettons déjà cet amour en pratique, en ayant confiance que Dieu nous aidera à faire preuve de bonté et de patience. Lorsque nous sommes tentés de démissionner, lorsque nous nous décourageons, lorsque nous pensons ne plus y arriver, alors ce texte nous donne de l'espoir. Avançons, non par la vue, mais par la foi. Prions pour que Dieu nous révèle encore et encore la grandeur de son amour. C'est en nous émerveillant de son amour que nous serons plus aptes à aimer à notre tour. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à la prière. D'abord, prenons peut-être un bref temps de silence.